antes murmurantes.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Nico.
Bonsoir Rita.
Sur les ondes de Radio Larzac International.
Rêverie brésilienne.
Devaneios brasileiros. Lors de notre émission du 25 novembre, nous avons passé la première partie de l'entretien que nous avons eu avec Marcos Tadeu Holler, professeur et chercheur à l'Université de l'État de Santa Catarina, dans le sud du Brésil, claveciniste, musicologue et passionné par la recherche sur l'enseignement de la musique par les jésuites aux habitants du Brésil à partir du XVIe siècle jusqu'à l'expulsion des jésuites en 1759. Le professeur Marcos Holler a écrit et a présenté sa thèse de doctorat sur le thème « Uma história de cantares de Sion na terra dos Brasis ».
Une histoire de cantiques de Sion dans les terres du Brésil.
Et un livre intitulé « A música na atuação dos jésuites na América portuguesa ».
La musique dans l'action des jésuites dans l'Amérique portugaise.
Au cours de l'émission précédente, le professeur Marcos Holler nous a entretenu sur l'arrivée des pères jésuites au Brésil en 1549 et leur contact avec les populations autochtones. Son récit s'est concentré principalement sur la musique comme moyen de contact avec ces populations et ensuite comme méthode pédagogique et de catéchisation. Il a souligné l'importance des jésuites dans l'implantation d'écoles au Brésil, initialement vouées à l'enseignement des enfants indiens, mais étendu plus tard aux enfants des Portugais installés dans les zones urbaines. Aux Indiens, les jésuites apprenaient à lire et à écrire, à jouer des instruments de musique et à chanter lors des offices religieux. J'incite les auditeurs qui n'ont pas écouté l'émission du 25 novembre à le faire.
En allant sur le site de Radio Larzac, puis dans l'onglet « Son », puis « Émission », et rêverie brésilienne.
Reprenons notre navette spéciale. Pilote, partons. Il nous tarde d'écouter la suite de ce récit passionnant.
Thank you.
Lors de l'émission précédente, nous avons laissé une question en suspense. Les filles indiennes étaient-elles aussi intégrées à l'éducation donnée dans les écoles des missions des jésuites? Je vous pose cette question car votre texte cite constamment les mots « meninos ». Et en portugais, ce mot est utilisé aussi bien pour désigner les seuls garçons comme l'ensemble des enfants.
No começo, eu instintivamente, assim, lia meninos como crianças.
Au début de mes recherches, de mes lectures, lorsque je rencontrais le mot meninos, instinctivement, je lisais meninos, dans le sens enfant, en général. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que le genre n'est pas explicite. Il ne m'est pas possible de dire si certains textes se référaient aux garçons et aux filles, et d'autres seulement aux garçons. Nous sommes dans un scénario extrêmement complexe, avec des histoires particulières, très différentes et très diverses, et l'imprécision de ce mot, meninos, ne me permet pas à la lecture de textes anciens de faire des généralisations, d'établir des caractéristiques pareilles à toute l'action éducationnelle des jésuites. Il existe des textes dans lesquels la spécification garçon ou fille est très claire. Par exemple, les enfants qui sont venus de Lisbonne étaient tous des garçons qui, d'ailleurs, intégrèrent la compagnie de Jésus plus tard. Un autre texte, parlant d'une procession, commence par le terme générique, puis le sens « homme » vient ensuite. C'est très clair qu'il s'agit d'hommes. Il existe encore un autre texte, écrit bien plus tard, au XVIIIe siècle, qui parle de l'instabilité des missions du Brésil due au manque d'assiduité des Indiens à l'école. Aussi, les prêtres n'arrivaient pas à consolider un enseignement aux Indiens. Ce texte mentionne que pour cette raison, un prêtre a commencé à apprendre aux filles indiennes à chanter l'office. Ceci montre que c'était d'une certaine façon une exception. Ceci dit, je ne pense pas que les écoles faisaient la différence entre garçons et filles dans l'enseignement général. Mais je pense que, au moins pour la pratique musicale, principalement, dans les offices, les messes, il existait une question de genre. Les filles n'étaient pas acceptées, même parce qu'au XVIIIe siècle, à l'Église, en Europe, les femmes étaient interdites de chanter.
Au XVIe siècle, Maddalena Casulana, compositrice italienne, la première compositrice dont les œuvres furent publiées et imprimées, dédia à Isabelle de Médicis son premier livre de madrigaux avec cette profession de foi. « Je veux montrer au monde, autant que je le peux, dans cette profession de musicienne, l'erreur que commettent les hommes en pensant qu'eux seuls possèdent les dons d'intelligence et que de tels dons n'y sont jamais donnés aux femmes. »
A Igreja Católica proibia, por muito tempo, proibiu que as mulheres cantassem no culto.
L'Église catholique a interdit pendant très longtemps aux femmes de chanter pendant les cultes.
En 1896, on trouve dans la semaine religieuse de Paris un rappel de cette interdiction.
Je ne sais pas si dans les communautés des jésuites en Amérique du Sud, cette interdiction fut aussi appliquée. Nous n'avons pas d'informations suffisantes pour en faire une affirmation catégorique. Mais en principe, les femmes ne pouvaient pas chanter pendant les cultes. Le chœur devait être masculin. Les voix les plus aiguës étaient faites par les enfants.
En 1922, s'acheva l'Empire des Castrats, avec la mort d'Alessandro Moreschi, surnommé « les derniers castrats du Vatican ». Grâce à la magie de la gravure sonore, il nous a laissé une trace de ce que pouvait être la voix d'un castrat. Réalisé entre 1902 et 1904 à l'aide d'un phonographe à la chapelle Sixtine, les enregistrements se firent devant un cornet acoustique qui ne nous permettent pas d'apprécier la beauté et la performance de Moreschi, mais ceci ne nous empêche pas de lui porter un moment d'écoute. Alors, nous restons avec ce doute. Y avait-il une différence d'accès au même enseignement entre garçons et filles?
Comme je falei, os documentos eles não respondem tudo. Eles acho que até eles levantam mais questões do que respondem questões, na verdade. Então,
les documents ne répondent pas à tous les doutes. Je pense qu'ils soulèvent davantage de questions qu'ils y répondent. La recherche musicologue est faite de plus de questions que de réponses. Un épisode relaté dans votre texte m'a interpellé. Vous parlez d'une procession pour honorer plusieurs statues de vierges amenées du Portugal.
La citation est un peu différente. En vérité, non sont virgins, mais sont reliques.
La citation est un peu différente. Il ne s'agissait pas de statues de vierges, mais de reliques. C'est une histoire très drôle. C'est l'histoire de Sainte Ursula, qui fut sacrifiée avec 11 jeunes, qui seraient 11 vierges. Et au nord-est du Brésil, à l'époque, ceci s'est transformé en 11 000 vierges. Il existe depuis une ville qui s'appelle 11 000 vierges. Et il y a une fête aux 11 000 vierges. Ce qu'ils amenèrent d'Europe, c'était des reliques, partie des os qui seraient de ces 11 000 vierges.
La formation musicale donnée aux Indiens dans l'émission des Jésuites a-t-elle eu un impact sur la création d'une identité culturelle authentiquement brésilienne, si elle existe? Croyez-vous qu'il existe une identité culturelle purement brésilienne?
Olha, é difícil dizer de uma identidade. O Brasil é tão grande, tão diferente, que são várias identidades, talvez.
Il est difficile de dire s'il existe une identité. Le Brésil est si grand, si différent, qu'il existe plusieurs identités, peut-être. De plus, le rôle des jésuites dans la formation des identités culturelles brésiliennes, c'est aussi une des interrogations que je me suis posée. Je conclus que oui. Je pense que beaucoup de ce que nous avons au Brésil aujourd'hui vient de l'action des jésuites. J'ai l'habitude de faire une petite blague avec les élèves, leur disant que la venue des jésuites au Brésil était le chapitre 2 de l'histoire de la musique au Brésil. Le chapitre 1, c'était la musique qui existait déjà ici, que les Indiens faisaient déjà.
Então, eu imagino que muito do que a gente tem aí no Brasil hoje.
Avec les jésuites, nous avons eu la première introduction massive d'éléments européens qui vont commencer à se mélanger avec des éléments qui existaient déjà ici. Ce fut le processus de ce que nous appelons la formation de ces identités brésiliennes. Nous ne pouvons plus retracer ce chemin. C'est impossible, car c'est un processus passé il y a très longtemps, interrompu avec l'expulsion des jésuites, et sur lequel nous avons très peu de documentation. Par exemple, il existe un instrument typique du nord-est du Brésil, le pífaro, une petite flûte aiguë faite de bambou. Les jésuites mentionnent plusieurs instruments semblables à celui-ci. Mais il n'est pas possible de savoir si l'origine du pífaro remonte aux jésuites ou non. Je n'ai pas de doute que nombreux éléments de ces identités culturelles ont leur racine dans l'action des jésuites.
Parler de la musique des Indiens avant l'arrivée des prêtres jésuites comme un premier chapitre. Est-ce une allusion à ce que certains chercheurs brésiliens appellent la musique pré-colonialiste? Cabraline, époque avant l'arrivée de Pedro Álvares Cabral, navigateur portugais, considéré le découvreur du Brésil. Existe-t-il des documents qui permettent de savoir quels étaient les instruments de l'époque pré-Cabraline?
Existem alguns relatos de viajantes que passaram por aqui no século XVI. Era muito comum nessa época das navegações.
Il existe quelques récits de voyageurs qui sont passés par ici au XVIe siècle. Il était très courant à cette époque des grandes navigations. Depuis les débuts du XVIe siècle jusque pratiquement au XIXe siècle, de faire des récits de voyages. Les voyageurs qui venaient pour ces nouvelles terres, pour de nombreuses raisons, militaires, scientifiques, rentraient en Europe et rédigeaient ces récits. C'était une littérature très consommée en Europe à cette époque. Nous avons plusieurs de ces récits qui sont des sources intéressantes, principalement sur la musique des Indiens, ce qui était le plus curieux pour eux. Bien que cette musique fût filtrée par un regard très colonialiste, un regard non impartial, nous avons des informations sur comment étaient les rituels, sur ce qui se passait dans les villages des Indiens au XVIe siècle. Un de ces voyageurs a transcrit, a noté des cantiques des Indiens. Il est difficile de prendre une chanson des Indiens et noter dans une notation traditionnelle, avec une clé, pentagramme. Lui, il l'a fait.
Várias fontes sobre a música que se fazia nas aldeias indígenas no século XVI e em outros séculos também.
Le voyageur en question était Jean d'Oléry et son œuvre « Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil » écrite en 1578. Jean d'Oléry s'installa dans la France antarctique, qui fut le nom de l'implantation de la colonie française créée par Nicolas de Villégagnon. Expulsé de ses terres, il partit vivre dans les forêts parmi les Indiens. Bien qu'issu d'une famille modeste et exerçant le métier de cordonnier, il montra un savoir inouï, réussissant cette prouesse de transposer les cantiques des Indiens en langage musical écrit traditionnel.
Ne offre la sangue, ne offre la sangue.
Les musiques faites actuellement dans les villages des Indiens ont-elles encore un rapport à ces musiques anciennes? Ou ont-elles souffert des assimilations telles qu'on ne peut pas dire qu'écoutant une musique maintenant, on peut avoir une idée de ce que c'était les musiques pré-capralines?
O problema nem é só a assimilação ou globalização, assim, se contar outras culturas, mas a transformação também.
Le problème n'est même pas seulement l'assimilation ou le contact avec d'autres cultures, mais les transformations aussi. La musique de transmission orale se modifie à chaque génération, rendant difficile de savoir jusqu'à quel point il y eut modification ou non.
Je n'ai pas pensé à cette modification dont elle souffrit elle-même, une altération interne. Consultant sur l'histoire des missions des jésuites en Amérique, j'ai constaté qu'il existe bien plus de documents transmis par les missions espagnoles que par les missions portugaises. Pourquoi cette différence?
Grande diferença foi o isolamento que as chamadas reduções espanholas conseguiram.
La grande différence fut l'isolement que les missions espagnoles ont réussi à maintenir. Il existait un groupe d'approximativement 30 peuplements, pueblos comme ils se dénommaient, qui étaient complètement autosuffisants et isolés du contact des Indiens avec d'autres hommes blancs en dehors des jésuites. Les habitants de ces missions, prêtres et indiens, avaient même la permission de la couronne de se défendre avec des armements contre n'importe quel étranger qui s'approchait d'eux, principalement contre les infiltrations de Bandeirantes, qui venaient du Brésil pour capturer les Indiens et les amener au Brésil comme esclaves.
Bandeirante, l'homme qui suivait un drapeau, en portugais, bandeira. À l'époque du Brésil, colonie du Portugal, ces hommes pénétraient les forêts, exploraient les terres à la recherche de richesses et d'esclaves et plantaient les drapeaux portugais par où ils passaient.
Esse isolamento permitiu que nessas aldeias, ou essa, se tivesse uma estabilidade.
Cet isolement a permis de maintenir la stabilité des communautés et a permis aux Indiens d'apprendre plus facilement la musique. Il y a un détail très intéressant. Ces pueblos sont isolés jusqu'aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de visiter deux de ces pueblos en Bolivie, qui aujourd'hui sont des petites villes. Pour atteindre ces villages, nous avons voyagé 6 heures en voiture sans rencontrer une seule ville. Pas une route dans la forêt et seulement la forêt. La forêt, jusqu'à arriver au premier village. Jusqu'aujourd'hui, leur isolement est incroyable. Ces communautés ont encore pratiquement la même formation que les anciennes communautés des jésuites.
Une aldeia jésuitique. Donc, ça a permis une grande stabilité de ces aldeias. E no Brasil nós não tivemos isso. No Brasil, as aldeias elas eram próximas aos centros urbanos e a condição para que os padres pudessem.
Au Brésil, nous n'avons pas eu ce phénomène. Au Brésil, les communautés étaient proches des centres urbains et la condition pour que les prêtres forment ces communautés, c'était le régime de répartition. Les Indiens étaient obligés de rendre certains services aux Portugais. Il ne s'agissait pas d'esclavage, mais ils étaient obligés de travailler. Ils étaient payés pour ces services, mais étaient aussi obligés de le faire, car il y avait plusieurs travaux que seuls les Indiens pouvaient faire. Les Portugais ne savaient pas les faire. À titre d'exemple, se déplacer sur les cours d'eau ou bien se localiser dans les immenses forêts que les Portugais ne maîtrisaient pas. Il existait plusieurs produits qui n'étaient pas plantés, qui étaient cueillis dans la forêt. Le clou de girofle, par exemple, qui était très apprécié et très commercialisé par les Portugais. On ne le plante pas, il pousse dans la forêt. Et seuls les Indiens savaient pénétrer dans la forêt pour les cueillir. À l'époque, les guerres avec les Indiens ennemis étaient très courantes. Aussi, les Portugais n'avaient aucune chance de se sortir d'une guerre dans une forêt, car ils ne savaient pas se mouvoir dans sa densité. Il n'avait aucune stabilité dans les missions des jésuites portugaises du Brésil. Détail curieux, ceci n'est pas une conclusion à moi. J'ai trouvé un texte du XVIIIe siècle d'un jésuite qui parle exactement de la musique. Il compare ses missions espagnoles et portugaises dans les Amériques et il écrit que dans les missions espagnoles, les communautés étaient stables et les jésuites pouvaient enseigner aux Indiens à faire de la musique. Au Brésil, non. Au moment où les prêtres arrivaient à enseigner aux Indiens à chanter ou à jouer d'un instrument, ceux-ci devaient partir travailler. Et ils n'avaient pas de musique pendant les offices. À l'heure de la messe, les Indiens travaillaient pour les Portugais. C'est alors qu'un des prêtres a commencé à enseigner aux filles à chanter. Mais elles aussi étaient occupées par les travaux que les hommes ne faisaient pas.
Então, esse isolamento das aldeias espanholas permitiu que a música se desenvolvesse.
La pendule sur le mur nous dit que nous devons nous arrêter. Dommage. Mais ceci nous permet à tous de poursuivre nos réflexions sur l'entretien que nous venons d'écouter, car ce n'est pas fini. Nous aurons un autre chapitre, le troisième et final. Ce sera le mardi 13 janvier à 19h. N'oubliez pas. Notre émission d'aujourd'hui fut colorée par le fond musical dans l'ordre suivant.
En premier, musique du film Mission, Gabriel Stem, suivi de Mission Gabriel Oboé, composition de Ennio Morricone.
Vague Amorosi Augelli, composition de Maddalena Casulana, interprétée par l'ensemble Laus Concertus, fut le deuxième.
En troisième, Domine Salvum Pontificem, ou Pontificem, interprété par le castra Alessandro Moreci.
Quatrième, trois chansons interprétées par des indiennes des peuples du Tucumac et Brésil, 2005.
En cinquième position, Lucime, flûte de pan, interprétée par Pachina Poti Apalai, ou Apalé, indien du peuple du Tucumac, Brésil, 2005.
Du disque Litanie de la Vierge, motet pour la maison de Guise, Miserere ne progissias me, extrait de Miserere des Jésuites par Marc-Antoine Charpentier, à la demande des Jésuites avec lesquels il a travaillé dans les années 1690. Interprétation, ensemble correspondance.
En suivant, un disque de l'Altiplano à l'Amazonie Lima, La Plata, Mission Jésuite. Salve Regina, Coro de Niños Cantores de Córdoba, Argentine, ensemble Elima, sous la direction de Gabriel Garrido.
Nous avons entendu aussi de l'archive de la Mission des Chiquitos, Missa San Ignacio, composition de Domenico Zipoli, interprétée par l'ensemble Elima, sous la direction de Gabriel Garrido.
Et enfin, un extrait du Miserere des Jésuites, Liberame, de Marc-Antoine Charpentier, par l'ensemble Correspondance.
Ah, oh, essas fontes murmurantes.
Au revoir Nico, et merci pour ta participation spéciale aujourd'hui.
Pas de problème, au revoir Rita.
Bonne fête Nico, bonne fête à nos auditrices et nos auditeurs, bonne fête à toute l'équipe de Radio Larzac. Et n'oubliez pas, rendez-vous avec
Rêverie Brésilienne
le mardi 13 janvier à 19h ou les samedis 17 janvier à 15h.
Ou quand vous le souhaitez,
sur le site de Radio Larzac, onglet son, émission et rêverie brésilienne, rien que pour vous. Partez pas, restez à l'écoute de Radio Larzac.
Vous ne le regretterez pas.